DW. Pulsation.
À quoi ressemblera l'Afrique en 2060 ? C'est la question sur laquelle se sont penchés 10 auteurs africains dans un recueil de nouvelles qui vient d'être publié en Allemagne. La Française d'origine malienne Aya Sissoko fait partie de ces auteurs et elle est l'invitée de ce magazine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Hautgens Vitel au micro. Vous êtes prêts ? Ça va pulser !
Le retour des ressortissants maliens et français ayant au moins un parent malien s'accéléra à partir de 2032. La France ne voulait plus de ces bas années. Il fallut choisir entre la fuite ou la mort. Massou n'avait pas cédé à la panique ni même au désarroi, comme ce fut le cas pour de nombreux condamnés à l'exil, dont ses propres enfants. Elle prit cette nouvelle injonction du destin comme une bénédiction, la réponse à ses prières. Massou avait toujours considéré son installation en France comme temporaire, une longue parenthèse rendue supportable car assortie d'une clause retour. On ne peut pas oublier là où l'on est né, c'est impossible.
Un extrait du texte d'Irukker, Le Retour, écrit par Aya Sissoko pour l'anthologie Imagine Africa 2060, Geschichten zur Zukunft eines Kontinents. Imaginez l'Afrique en 2060, histoire sur l'avenir d'un continent. Le livre a été publié cette année aux éditions Peter Hammer Verlag par Christa Morgenrath et Eva Wernicke, qui organisent depuis 10 ans à Cologne des soirées littéraires auxquelles sont invités des auteurs africains. Aya Sissoko était déjà venue l'année dernière à Cologne pour présenter son roman Nba, un livre dédié à sa mère. Elle raconte sa réaction quand on lui a demandé de participer au recueil Imaginez l'Afrique en 2060.
Mais je trouve ça génial justement d'inscrire l'Afrique dans le futur. Quand le projet m'a été proposé, au début je me suis dit « Waouh, 2060 c'est loin !» Enfin moi qui ai l'habitude de vivre au jour le jour, etc. Je me suis dit « Ouais !» Et puis finalement je me suis dit « Pourquoi pas ? » Et finalement, donner à l'Afrique une espèce de trajectoire complètement dingue. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai adoré l'exercice. J'ai adoré la liberté qui nous a été donnée aussi par Christa Morgenrath. Parce que pour le coup, il n'y avait aucune restriction, à part en nombre de signes. Mais on n'avait aucune restriction. On était libre, finalement, de ce qu'on voulait dire et comment le dire. Et ça, pour un auteur, pour une autrice, c'est extraordinaire, cette liberté.
Dans votre nouvelle d'Irukker, Le Retour, vous décrivez une situation en France qui est marquée par le racisme, par la ségrégation, par l'extrémisme, l'exclusion sociale, ça fait très très peur. Et cette situation finit par le renvoi, entre guillemets, des Africains et des personnes issues de l'immigration en dehors de la France, dans le pays de leurs ancêtres, en fait. Et est-ce que vous avez peur que cela devienne une réalité, ou est-ce que c'est plutôt une mise en garde que vous voulez lancer contre certaines dérives actuelles de la société en France ou plus largement en Europe ?
Donc j'exprime à la fois mes peurs, bien évidemment. C'est aussi une mise en garde, c'est-à-dire rappeler que l'histoire est têtue, qu'elle a tendance à se répéter justement si on ne garde pas en mémoire les événements passés. C'est dire que finalement, l'échec d'une certaine manière sera partagé, mais beaucoup plus du côté des barbares. C'est-à-dire qu'on a été obligé au départ, au retour sur la terre de nos ancêtres, mais on a reconstruit justement ce pays, on s'est réapproprié ce pays, bien sûr, avec ceux qui étaient déjà présents. Oui, l'échec finalement est du côté des barbares.
La raréfaction de l'emploi, la succession d'attentats sur le territoire, un afflux continu de réfugiés de guerre et de migrants économiques furent autant de situations qui permirent aux dominants d'asseoir un peu plus leur pouvoir en gagnant la bataille de l'opinion. Les responsables d'une France en déclin furent désignés, les étrangers, les musulmans, les amis des musulmans, les athées, les véritablement laïcs, les bien-pensants, les homosexuels et les lesbiennes, les handicapés, les femmes, les étudiants, les pauvres. Ce qui devait arriver arriva, le lien social se délita, laissant place à la défiance envers celui qui avait une carnation qui parlait pour lui.
Dans votre histoire, le retour forcé devient une bénédiction pour le Mali, comme vous l'écrivez. Le Mali qui donc se reconstruit en toute indépendance, de façon solidaire avec les pays africains voisins. Il se libère en fait du néocolonialisme. Alors c'est ça le message que vous voulez faire passer, d'un idéal, d'une libération ?
Alors, déjà, il est important de dire que le retour se fait et le travail se fait avec justement la jeunesse qui est présente sur place. C'est-à-dire que même s'il y a, il y a cette défiance au début, parce qu'on justement on rentre directement en concurrence avec la jeunesse présente déjà sur le territoire, mais finalement, on se rend compte très vite que le gain est beaucoup plus important si on arrive à travailler en intelligence, en solidarité, etc. Et là, finalement, oui, on construit un Mali debout. Et juste cette perspective est quelque chose d'extraordinaire. Pour le coup, justement, les derniers de la classe reprennent leur destin en main. Et je trouve ça formidable comme perspective.
Est-ce que vous pensez que les Maliens, de manière générale, les personnes issues de l'immigration, doivent être forcées pour avoir envie de retourner dans le pays de leurs ancêtres et d'y construire l'avenir ?
Bien évidemment que non. D'ailleurs, c'est aussi ce que je dis au tout début du texte. C'est-à-dire que certains n'ont absolument pas attendu que les choses se gâtent dans les pays occidentaux pour entreprendre le retour. Alors, bien sûr, il y a différentes raisons à cela. Pour des raisons économiques, parce qu'on se dit les perspectives sont... Enfin, tout est à faire, justement, là-bas. Donc, pour s'exprimer, c'est quelque chose de formidable. Il y a bien évidemment aussi ce besoin de renouer avec son identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment... où on vous fait comprendre que du fait de votre couleur de peau, vous n'appartenez pas de fait justement à cette communauté de destin blanche. Donc voilà, les raisons sont diverses qui ont justifié le retour, en tout cas avant l'enclenchement justement des événements qui sont racontés dans le livre, enfin en tout cas dans ce court texte.
Le Mali n'avait jamais été un État pauvre et mourant. La reprise en main du pays par une jeunesse éduquée, ambitieuse, intègre et prête à se relever les manches fut salvatrice pour lui rendre son entière souveraineté. Quelques-uns parmi les responsables du changement n'avaient pas attendu d'être refoulés par la France ou l'Occident pour revenir sur le territoire. Ils avaient fait le choix volontaire de s'installer sur les terres de leurs parents, motivés par les perspectives économiques, l'envie de faire la paix avec une identité contestée ailleurs, ou encore participer à bâtir un Mali puissant. Avec les natifs du pays, ils avaient conscientisé les populations sur l'importance d'un renouveau politique et d'une éducation pour tous. Le pays n'eut rapidement plus rien à envier au monde blanc vieillissant.
Dans le texte, il y a un personnage très courageux. Le personnage central, c'est Massou. Alors, elle fait penser à votre mère, telle que vous la décriviez, telle que vous l'évoquiez dans le livre Nba, le roman que vous lui avez consacré. Cette Massou, elle est courageuse, elle a surmonté beaucoup d'obstacles quand elle est arrivée très jeune en France, analphabète, ne serait-ce que pour avoir une vie acceptable et puis pour éduquer ses enfants, leur permettre à eux d'avoir une vie meilleure. Et une fois que tout le monde se retrouve de l'autre côté, au Mali, eh bien c'est elle qui les aide pour ce retour parce que cette expérience de l'exil, ça lui a donné une force incroyable.
Bah, c'est exactement ça. Donc effectivement, oui, j'ai envie de dire que ma mère me hante. Donc c'est-à-dire qu'à travers le personnage de Massou, c'est bien évidemment elle que je raconte et c'est à elle que je pense. De toute façon, elle est vraiment le fil conducteur. Elle est vraiment celle qui a dû prendre à plusieurs reprises son destin en main, qui n'a jamais voulu accepter justement cette posture de victime. Et elle va continuer justement à être à l'initiative, c'est-à-dire ne surtout pas subir. Elle va enjoindre à ses enfants de se relever. La vie continue, la vie avant tout. Et on ne peut pas se contenter d'une petite vie. Il faut voir grand, il faut être ambitieux et beaucoup reste à faire.
Massou dut apprendre à survivre dans un environnement blanc. En tant que femme pauvre et noire, elle était devenue pour le groupe dominant une valeur insignifiante. Elle appartenait à la communauté de destin de ceux qu'on avait réduits à une minorité visible, la tache sur un linge blanc immaculé, et la situation ne ferait qu'empirer dans le temps.
Et cette Massou, elle est aussi caractéristique de tous ces immigrés, en fait, parce que vous la décrivez comme une personne invisible ou qui fait tout pour rester à sa place, ne pas sortir du lot. Et qui dit invisible dit aussi qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas dans l'image commune la force qu'elle a et la détermination et toutes ces qualités dont elle fait preuve.
Bien évidemment, c'est-à-dire que justement dans les combats qui sont les siens au quotidien, ne serait-ce s'adapter justement à un pays dont vous ignorez tout, où tout vous semble hostile, le climat, la langue, la manière de vivre, etc. Et finalement, réussir à s'adapter à tout ça, travailler, gagner ce qu'il vous faut pour avoir un toit, pour nourrir les vôtres, etc., c'est extraordinaire. D'ailleurs, elle ne va pas se contenter de ça, elle va se dire « mais moi, ça ne me suffit pas. Il faut que mes enfants aussi y arrivent et fassent mieux que moi. » Et donc, voilà, il y a à chaque fois cette manière justement de voir continuellement plus grand, c'est-à-dire ne pas se contenter de la place qu'on veut bien lui donner, être plus grand que ça. Je trouve ça formidable. Et c'est ce à quoi aspirent beaucoup, justement, des hommes et femmes qui décident ou qui sont obligés de quitter leur pays. C'est-à-dire, on est là pour travailler. On n'est surtout pas là, justement, pour être désassisté. Aucun homme, aucune femme n'a pour rêve d'être un assisté. Enfin, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Les gens, justement, veulent gagner leur place à la sueur de leur front, c'est-à-dire être une plus-value justement dans le pays d'accueil. Et donc c'est aussi important justement de répéter tout ça dans un contexte justement où le faux couple devant de la place.
Et vous, Aya Sissoko, est-ce que vous êtes déjà allée dans le pays de vos parents, le Mali ?
Le Mali occupe une place très important dans chacun de mes ouvrages et pourtant je ne connais pas le pays de mes parents. J'y suis allée une fois, j'avais 3 ans. Autant vous dire que je n'en garde aucun souvenir, mais à côté de ça, voilà, ce pays, enfin le Mali m'habite. J'en parle la langue, j'en mange la nourriture, et je l'évoque continuellement dans mes livres. Parce que justement, le travail de transmission a été fait par ma mère. C'est-à-dire que ma mère a toujours été très, très fière de ce qu'elle était, de son pays, de la culture du pays qui était le sien. Et il était impensable que ses enfants, justement, n'en héritent pas.
Et une dernière question, est-ce que vous-même, vous êtes optimiste pour l'avenir des pays africains, de l'ensemble du continent, alors que ce soit en 2060 ou même au-delà ?
Bien évidemment, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus consciente, de plus en plus politisée, de plus en plus connectée aussi, et qui aspire justement à d'autres manières justement de vivre la politique, de vivre le pays. Enfin voilà, ils veulent rebattre les cartes et je trouve ça juste formidable. Je pense que de toute façon, la jeunesse, notre jeunesse sera meilleure que nous.
C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Vous pouvez retrouver ce magazine et tous nos autres programmes sur dw.com/français dans la rubrique Médiathèque. Au revoir et à bientôt.